Bon ben bonsoir à tous. Merci de venir aussi nombreux à cette espèce de lâchage magnifique des Utopiales. C'est-à-dire que voilà, ils ont inventé ce nouveau truc qui s'appelle expérience de pensée, dans lequel ils vous lâchent face à la foule sans modérateur et et sans conduite d'intervention. Mais bon, en même temps, c'est une belle carte blanche qu'on me laisse ici sur cette idée de monde sans machine. Donc je vais, en fait, on va essayer de, on a une heure devant nous, donc je vais, ah ouais, c'est marrant, ils mettent une modération, Laurent Kessy, mais pas du tout, ouais. vous êtes bien sur Monde sans machine, hein, vous le savez, c'était pas à l'agora de Monsieur Spock, c'est bon, tout le monde est au bon endroit au bon moment. Ok, donc, non mais je demande, on sait jamais. ce thème est particulièrement magnifique, parce qu'il touche à un des aspects qui moi m'interroge sans arrêt, c'est ce côté no-tech, ce côté complètement absurde, inimaginable d'avoir zéro machine dans nos existences, alors qu'on est dans la civilisation la plus anthropotechnique qu'on ait jamais rencontrée dans l'histoire humaine. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple, pas évident, ça va être un peu chaotique, vous allez voir. Je vais d'abord faire un petit solo, peut-être qui va durer, je sais pas, peut-être une demi-heure, sur ma vision justement de ce monde anthropotechnique dans lequel on est, de ce monde de machines dans lequel on vit, en passant par Sloterdijk, par Deleuze, par des réflexions philosophiques et sociologiques, aussi en parlant de science-fiction. Et puis après, ben, j'espère on ouvrira ensemble à l'échange, parce que je pense que ça se prête énormément à discussion, à interrogation. Je pense qu'on est tous confrontés de façon très, très puissante, très, très engagée à ce rapport à la machine. Et du coup, j'imagine que vous avez des tas d'interrogations là-dessus, que vous aurez envie de me provoquer sur ces choses-là. Donc, je vais attaquer, j'attaque directement par une expression, par une espèce de mauvais jeu de mots, comme j'aime bien, que j'appellerais Techno Man's Land. Voilà, Techno Man's Land, ça me paraît être le lieu où on est aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois de dire que la technologie, ben, c'est notre land, c'est notre terre, c'est notre pays, c'est là où on habite désormais, on habite dans une technosphère, dans un monde technologique. Et la question, c'est de se dire, est-ce que cette techno est encore un man's land, est-ce que c'est un no man's land, c'est-à-dire est-ce que c'est encore une terre humaine ou déjà vraiment un endroit où l'homme a été expulsé. Alors pour démarrer, je vais quand même démarrer sur un truc qui me tient à cœur. Je vais essayer de fusiller à bout portant une idée extrêmement répandue qu'on entend dans beaucoup de débats et qui est un cliché malheureusement super prégnant dans la pensée contemporaine. C'est l'idée que voilà, la technologie serait globalement neutre. Voilà, ça serait, ses effets dépendraient que de l'usage qu'on en fait. Voilà, les machines seraient neutres et puis finalement ça dépendrait d'un bon et d'un mauvais usage de la machine, ce que ça produit. Donc pour moi c'est vraiment une idée absolument courte, absolument débile et même stupide. Quadruplement stupide, et encore quand je dis quadruplement, je me limite pour pas que ça dure 2 heures. Mais pourquoi c'est complètement stupide? Parce que bon, d'abord, il faut que se rendre compte d'une chose très simple, c'est que la technologie, elle porte en elle une valeur latente. Cette valeur latente, c'est évidemment la recherche de l'efficacité, de la performance, de l'extension d'un pouvoir, du pouvoir, qui est en forte connivence aujourd'hui avec la logique du capitalisme, évidemment, quoi. Donc, la machine prédétermine l'utilisateur à faire de l'efficacité une valeur latente, une valeur constante. Et quand vous voyez, quand vous regardez les pubs, que ce soit pour un iPhone, pour n'importe quelle technologie ou pour n'importe quelle appli qu'on vous vend, ce qu'on vous vend, c'est une surcroît de maîtrise, c'est un surcroît de contrôle, c'est un surcroît de confort, c'est une capacité à avoir plus de pouvoir que vous en avez aujourd'hui. D'accord ? Donc cette valeur-là, elle est coextensive à la notion même de technologie. Donc c'est totalement neutre, c'est totalement non neutre, hein, évidemment. Putain, ça démarre fort. Et en plus, je dirais, voilà, je vais citer Heidegger, j'aime bien citer Heidegger, tu vois, c'est toujours super provoquant. Mais Heidegger, il définit la technique comme une façon d'arraisonner le réel, voilà, de mettre à la raison, de mettre en pli, d'arraisonner le réel. Et je pense que c'est une très très belle définition. Ensuite, pourquoi la technologie n'est pas neutre? Pourquoi les machines ne sont pas neutres? Parce qu'en amont, vous le savez, si vous êtes scientifique, il y en a beaucoup ici. La science dépend des recherches, évidemment, et ces recherches dépendent des crédits qu'on alloue à ces recherches. Et donc, dépend d'une forte présélection de ce qu'on va déterminer comme cherchable ou comme, comme positivement ou potentiellement vendable permettant d'améliorer l'efficacité des entreprises, permettant parfois d'améliorer l'humain, etc. Donc il y a, si vous voulez, un ensemble de valeurs sociales, culturelles, politiques extrêmement fortes dans les crédits de recherche qui sont alloués à telle ou telle technologie. Par exemple, si vous regardez un peu ce qui s'est passé ces dernières années, il y a eu énormément de crédits de recherche alloués aux capteurs. Capter des données, voilà, que les objets, l'internet des objets, que des capteurs olfactifs, des capteurs chimiques, des capteurs de poids, des capteurs thermiques, des oculomètres, des capteurs biométriques, etc. Il y a eu par exemple tout un champ de la recherche qui s'est développé autour de la notion de captation. C'est évident que cette approche-là, elle n'est pas neutre du tout. Elle présuppose un monde qui doit être mesuré, qui doit être calculé, sur lequel on doit prélever de l'information, et que tout un ensemble de phénomènes qui avant étaient, j'ai envie de dire, gratuits, et non habité par l'espèce de data mining sporulant, arachnéen dans lequel on vit, et ben ces choses-là avant n'étaient pas naturellement recherchées. Aujourd'hui, on demande à chaque objet, à chaque acte, à chaque achat, à chaque surf, à chaque comportement dans la ville, de générer du data. Voilà, il faut du bon data dans la data tiers, hein, et il faut qu'à partir de ce data, on extorque de la plus-value. C'est le modèle économique, c'est le nouvel or noir, or gris, tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a absolument aucune neutralité dans ce choix des recherches au départ. Ensuite, en aval, évidemment, la machine, la technologie produit des effets qui sont souvent non anticipés, qui sont des effets psychologiques, qui sont des effets relationnels, qui sont des effets sociaux. Et ça, c'est absolument, évidemment, pas neutre. Hein, je pourrais vous donner l'exemple, par exemple, du portable qui, au départ, a été construit comme un outil de communication interpersonnelle. Et puis, on s'est rendu compte qu'à cause des antennes, ça nous permettait de géolocaliser les gens, de trianguler la position du possesseur du portable. Et à partir de cette géolocalisation, on a développé tout un ensemble, évidemment, de stratégies marketing extrêmement fortes et de traçabilité qu'on n'avait pas soupçonné. Donc, en amont, on a vu les crédits de recherche sont manipulés, mais en aval aussi, il y a effectivement une absence totale de neutralité des effets de la technique. Voilà. Et ensuite, on va finir là-dessus. C'est le plus important, c'est que la technologie n'est pas neutre parce que toute machine, toute technologie apporte un nouveau rapport au monde. Voilà. La machine situe notre liberté et notre liberté s'exerce face à elle, s'exerce en elle. Nous sommes libres de nos usages de la machine, généralement, libres même de ne pas l'utiliser parfois. Mais c'est une liberté en situation, c'est une liberté déjà située, un libre arbitre qui s'exerce à l'intérieur d'un monde transformé et repotentialisé par la machine. Et il devient impossible de se comporter comme si elle n'existait pas. Je vous prends un exemple personnel qui est très simple. Moi, je n'utilise pas de portable, donc on peut me dire, voilà, vous êtes libre, c'est bon, vous n'avez pas envie d'avoir de smartphone, vous n'avez pas envie de portable, ok, c'est votre problème. Donc je fais partie des 1% peut-être dans la population aujourd'hui, vu le taux de pénétration, qui n'a pas de portable. Mais le fait de ne pas utiliser de portable ne change rien au fait que je suis dans un monde où le fait d'être joignable et de pouvoir joindre fait partie de la norme sociale partagée par tous, quoi. Et que donc, en ayant ce comportement de ne pas avoir de portable, je me fous de toute façon dans une forme d'anomalie qui fait que, par exemple, si mon train a du retard, si je suis en retard au rendez-vous, si un problème survient, je ne vais pas pouvoir prévenir les gens et je mets les gens dans l'incertitude par rapport à ma venue. Et ça, c'est un phénomène sociologique qui est généré par l'émergence de cette technologie et qui est un effet aval, j'ai envie de dire, du rapport au monde qui induit le portable aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un bon ou un mauvais usage de la technique qui va changer quoi que ce soit là-dessus. Autre exemple dont on parle assez peu aujourd'hui parce que c'est une technologie super banale, c'est la voiture. Et si vous avez lu Ivan Illich, que je vous recommande de lire, il disait des choses extraordinaires. Il disait, par exemple, moi, je n'ai pas le permis de conduire. Enfin, j'ai tous les défauts, donc ni portable, ni permis de conduire. Je n'ai pas de bagnole. Mais que tu aies une voiture ou pas de voiture, que tu conduises ou que tu veuilles pas conduire, tu ne changeras rien au fait que la ville occidentale et même la ville dans la plupart des pays du monde est structurée autour de la circulation automobile. Par exemple, le trottoir est une invention de la voiture. Voilà. Et le fait que tu marches sur un trottoir est lié à cette technologie, est un effet absolument non neutre de cette technologie. Le fait que l'espace rural est lui-même structuré par des routes qui relient des villages, qui des coupures urbaines liées à des périphériques, etc., tout ça est une conséquence de la voiture et a complètement modifié notre rapport à la ville, à la rue et à la circulation dans les espaces urbains. Je ne vous parle pas d'Internet, évidemment, vous le vivez, vous l'avez vécu, tous ceux qui sont arrivés avec l'émergence d'Internet en 95. C'est évident qu'Internet a absolument révolutionné totalement et notre façon de nous informer, de communiquer, de séduire, de draguer, de se construire, de mémoriser, etc. Voilà. Donc, ce que je voudrais développer comme thèse, c'est très simple ici, et puis je ne suis évidemment pas le premier à l'avoir dit, c'est que voilà, nous devenons ce que nous sommes, l'être humain devient ce qu'il est, grâce à la machine, par la machine, et l'être humain, il y a une très belle phrase de Sauterdijk, là je vais vous parler un peu de Sauterdijk parce qu'il y a un texte magnifique de lui qui s'appelle « La domestication de l'être » qu'il a écrit justement sur cette hominisation de l'homme par la technique. Il dit une chose très simple, il dit voilà, les animaux, les êtres humains et aussi évidemment les plantes, tout ce qui est vivant Mais la particularité de l'homme, c'est que l'homme vient au monde. Et il vient au monde par la technique. Ce qui différencie le singe de l'homme, ce qui différencie, pas vraiment le singe de l'homme, parce que le singe a l'outil, mais ce qui différencie les animaux de nous, c'est que nous, bah, on a la capacité à utiliser l'outil. C'est à partir du moment où on emploie l'outil que se génère quelque chose qui s'appelle l'humanité. Donc, si vous voulez dire un monde sans machine, dire un monde sans technologie, c'est totalement absurde. Et se revendiquer d'une technophobie massive et radicale est totalement débile, parce que ça serait renoncer complètement à ce qui constitue l'être humain. On est des êtres profondément techniques. On est des êtres qui ne deviennent humains que par la technique, voilà, et que par l'utilisation des techniques. Donc la question n'est pas d'avoir ou non de la machine, mais effectivement de quelle façon cette machine va complètement altérer nos rapports aux choses et comment on vit à partir de ça. Alors, un petit saut sur Sauter Dick, c'est super intéressant parce qu'il parle dans ce bouquin, La domestication de l'être, c'est une petite conférence qu'il avait fait comme ça, il parle de quatre mécanismes d'hominisation, c'est-à-dire de quatre mécanismes par lesquels l'homme est devenu humain. Et je vous en citer deux qui sont extrêmement intéressants, et même par rapport à la conférence que je viens de faire là il y a une heure. Le premier, c'est l'insulation. L'insulation, ça vient d'Isola, ça vient de l'île, c'est-à-dire c'est l'insulation contre la pression de la sélection. L'être humain a cette particularité, c'est qu'il est plus soumis à la sélection. Les bébés qu'on fait naître sont protégés. Ils sont protégés jusqu'à 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. C'est-à-dire que on met à distance l'environnement direct, on aménage à l'être humain une forme de clairière, il appelle ça une sorte de clairière ontologique, un utérus externe, une couveuse entrouverte, il dit ça, j'aime bien cette expression. Donc les hommes vivent presque toujours dans une situation épargnée, protégée, dans une sorte de parc autogène, il dit, où on va déployer nos facultés propres. Donc les petits sont protégés. Ce mécanisme d'insulation, il est extrêmement intéressant et il est permis notamment par la technique elle-même. Et puis il y a un deuxième mécanisme qui est la suspension des corps. Il dit une chose très belle, il dit que l'homme ne descend pas du singe, il ne descend pas du cygne non plus, mais il descend de la pierre. Et il exprime un premier mouvement technique qui est très beau, et ça c'est à retenir sur toutes les technologies contemporaines, je trouve. Il parle du jet de pierre. Il dit la première technique que l'homme a utilisée, c'est de prendre une pierre et la jeter contre un oiseau au loin ou contre un animal loin. C'est-à-dire de prendre un objet et de le jeter à distance. Et il dit dans l'espace ouvert par ce jet, c'est la première fois qu'on ouvre un rapport au monde. C'est-à-dire qu'on se dit une action de ma main à distance va produire quelque chose. Et ça, il dit, c'est le premier moment où l'homme devient réellement humain, c'est par le jet de pierre. Je trouve cette image vraiment très belle. Et puis vous souvenez peut-être de... justement de Kubrick qui va réutiliser ça et qui va le déployer dans 2001. Voilà. Et donc il finit là-dessus, il dit « Toute technique est à l'origine une technique de création de l'espace ou une technique de serre et le reste longtemps de manière inconsciente. » Et ça m'amène à quelque chose d'assez important aujourd'hui, c'est que sur les machines, on a eu, vous savez, il y a une classification qui est faite en anthropologie, qui est machine de première génération, deuxième génération, troisième génération. La première génération de ce qu'on appelle les machines ou les outils, c'est simplement le marteau, la faucille, c'est les outils que vous empoignez, c'est les outils externes qui sont inertes et dont l'action de l'homme, généralement la main, lui fait produire quelque chose. Et puis il y a la machine de deuxième génération, qui est les machines à vapeur, par exemple les machines automotrices, comme ça, où la machine a une capacité, je dirais, autonome à produire quelque chose, à transformer l'énergie d'elle-même. Et puis nous, on arrive, à partir des années 70, dans la troisième type de génération de machines, qui est les machines informatiques dans lesquelles nous, on vit. Et ces machines-là, elles sont très particulières parce que c'est ce que j'appelle, moi, des machines-monde. C'est-à-dire qu'une machine externe de première génération, elle est externe à nous, on l'empoigne, on la pose. Le marteau, vous le prenez, vous tapez sur un clou avec, vous le reposez, et ça ne va rien changer à votre rapport au monde. La deuxième type de machine, ça commence à être intéressant parce qu'elle est automotrice, elle a une certaine autonomie par rapport à nous. Mais la troisième type de machine, la machine informatique, le réseau Internet, les réseaux, c'est ce que j'appelle une machine monde. C'est-à-dire c'est une machine dans laquelle on vit, on est immergé et qui nous entoure. Voilà. Donc c'est une vraie technosphère. Et c'est très différent. Et du coup, vous comprenez que dire la technologie est neutre, etc., c'est complètement absurde parce qu'on est immergé dans une machine monde. Et on vit dans une machine-monde. Et aujourd'hui, on vit dans des technococons. On vit dans un oignon technologique à plusieurs couches extrêmement denses et dans lequel on essaye parfois de s'éplucher et parfois d'essayer d'atteindre un hypothétique d'or à travers toutes les couches technologiques qui sont près de nous. Si vous réfléchissez par exemple à cette idée complètement con de se dire combien de minutes par jour je suis éloigné d'une technologie, vous allez voir que c'est proche de zéro, quoi. Ne serait-ce que par votre smartphone qui va être quasiment dans votre poche ou sur votre table de nuit à longueur de journée. Donc la technologie s'est rapprochée de nous. elle est de plus en plus proche de nous, elle a portée de main, elle a portée de voix, elle a portée de toucher, elle a portée d'interaction, et c'est le propre de cette technologie extraordinaire, de cet objet nomade totalitaire extraordinaire qu'est le portable, c'est qu'il est toujours à disposition et qu'il nous filtre le rapport au monde, il nous crée une sorte d'interaction, d'interfaçage très fort avec ce rapport au monde. Donc voilà, la technosphère, le technococon s'est rapproché de nous, il est devenu de plus en plus proche, de plus en plus puissant. Voilà, je voulais juste dire tout ça. Je voudrais maintenant parler un peu de la... Je continue à délirer, hein, puis après vous m'arrêterez, puis vous me poserez des bonnes questions qui me sortiront de mes délires. Je voudrais parler de la monade, justement. C'est-à-dire de dire que quand on suit Sauterdijk et qu'on réfléchit à cette idée d'insulation, de cette idée que l'homme s'est créé un parc autogène, protégé, une couveuse entrouverte, comme ça un utérus externe, je trouve que c'est devenu maintenant hyperbolique. C'est-à-dire qu'on a hypertrophié, on est dans l'hyperinsulation. C'est-à-dire qu'on a un isolement hyper relié aujourd'hui. On est protégé, généralement quand vous êtes sur votre portable ou quand vous êtes chez vous à surfer sur le net ou à envoyer des mails ou à être sur Facebook, vous êtes dans une sorte de phare, comme ça, dans une sorte de cocon, dans lequel vous êtes relié aux autres, vous êtes dans votre monade. Et ce parc donc autogène, c'est là-dedans qu'on s'accouche. Moi, je dis, on s'accouche dans la douceur, on s'accouche pas dans la douleur aujourd'hui. Et un adolescent, et il y en a encore ici, etc. Moi, je suis sidéré sur la façon, voilà, dont les ados vont surutiliser le smartphone, surutiliser évidemment les jeux portables, vont surutiliser Internet. C'est-à-dire qu'ils s'accouchent à travers la technologie. Tu t'accoucheras dans la douceur. Et c'est une forme de douceur, une sorte de cocon à travers lequel tu vas filtrer ton rapport aux autres, ton rapport aux amis par Facebook, ton rapport à l'éventuelle agressivité du monde à travers ces technos. Et en plus, ces technos permettent une sorte de customisation, de personnalisation qui permet que tu as l'impression que tu as adapté un processus industriel à toi-même. Voilà, donc ça c'était tout un aspect que je voulais montrer. Ça implique aussi une autre gestuelle, moi qui m'a toujours frappé. J'aime beaucoup ce dessin, je ne sais pas si vous l'avez vu, on le voit beaucoup, c'est une sorte de mème aujourd'hui iconographique où on voit une espèce de singe comme ça à moitié penché, puis il se redresse, il devient debout, on voit un homme qui marche. Et puis après, cet homme qui marche, il commence à se rebaisser, puis il s'assoit comme ça devant un clavier à taper comme ça sur son écran. Et on le voit, si vous voyez même aux utos, il y a ce phénomène très souvent où voilà, vous avez le gars son casque sur la tête ou la nana, et puis il tape sur son clavier, et puis il a cette position simiesque auquel il avait échappé au début. Et j'ai toujours aimé ce mème-là, parce qu'il y a la phrase dessous qui est what went wrong, qu'est-ce qui a merdé, quoi, qu'est-ce qui a déconné dans l'évolution humaine. Mais j'aime beaucoup cette sensation que les mouvements deviennent de plus en plus... en quelque sorte centripète, c'est-à-dire qu'on a une sorte de position de corps, des mains, des bras, on le voit beaucoup dans les métros, dans les bus, où l'être humain voilà, se définit ce cocon et circule et évolue à l'intérieur de ce cocon, de cet oignon. Moi, j'appelle ça le hamsteroïde, parce qu'on est des hamsters dans notre petit truc tactile, et puis on est là-dedans. Donc... voilà, je trouve que c'est une nouvelle forme de l'humanité. Moi, j'appelle ça, après, ça développe plein de phénomènes annexes, psychologiques intéressants, que j'appelle l'égologie ou l'écologie, mais avec un H. C'est-à-dire que c'est des systèmes d'interactivité compulsive. On est dans le gérer manipulé, on est dans ce que j'appelle le cyberné, on cyberne. C-Y-B-E-R-N. C'est-à-dire qu'à la fois, on est en train d'hiberner auprès de nos machines, et puis on se laisse un peu berner et bercer par tous les mécanismes de feedback, de stimuli réaction, toutes ces boucles. J'écoute mon répondeur, je réponds à un message, je réponds à un SMS, et clink, clang, clong, tu vois, tu es sans arrêt dans ces boucles de chat, tu reviens, tu cliques en bas de ta page d'info, et puis tu circules dans un réseau informatique, etc. Et t'as ce côté que je trouve extrêmement, cyberné, je sais pas comment dire ça autrement, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est une sorte d'activité comme ça, rotative, circulaire, extrêmement, je pense que vous la connaissez tous, on la vit tous à un moment donné, surtout quand on est fatigué, on a tendance à se laisser piéger là-dedans. On est dans une sorte de rotation, de permutation de l'information et en fait, on ne fait que manipuler à la main, au doigt ou à la voix des interfaces sans produire rien de particulièrement intéressant. Et d'une certaine façon, la techno vient vider notre rapport à nous-mêmes et elle le remplace par des interactions machiniques. Voilà, il y a des mécanismes conjuratoires d'angoisse qui sont générés par ce rapport à la machine. Quoi, voilà. Et tout ça, sous fond, bien sûr, d'addiction, de dépendance, de fusion, perfusion. Moi, j'appelle ça Big Mother aussi, c'est-à-dire que c'est pas tant le contrôle qui compte que la notion d'être couvé et d'avoir des boucles. On l'a montré beaucoup sur les enfants. C'est pour ça qu'on essaie d'interdire aux gosses de toucher les tablettes trop tôt et de jouer aux vidéos avant 6 ans, etc. C'est parce qu'on s'est rendu compte que sur les cycles de dopamine, de sérotonine, sur les mécanismes de récompense comme ça, neurologiques, il y avait tendance à créer des circuits courts. Qui fait que le gamin ensuite n'est plus capable de sortir de ses circuits courts, il a besoin de récompenses très rapidement et il a du mal à rentrer dans des cycles longs de lecture par exemple ou de concentration longue ou de création de jeux de rôle pour lui-même, etc. Donc ça, ça fait partie de l'égologie et de l'écologie, c'est-à-dire ces mécanismes de feedback permanent dans lequel on s'auto-piège. Voilà, moi je crois aussi sur la machine, alors si on veut faire la prospective, j'aime beaucoup ça, de dire quelle est l'étape suivante sur la machine. Moi je crois beaucoup à l'IA personnalisée, je pense que c'est ce qu'on nous prépare. Ce qu'on nous prépare, c'est ce que fait Siri, ce que fait Cortana, ce que fait Alexa avec Amazon. Tous les gros GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, travaillent là-dessus. C'est-à-dire sur une modalité d'intelligence artificielle à base de langage naturel, c'est-à-dire des robots de conversation. Qui auront cette capacité, donc ça sera à mon avis sur l'objet nomade totalitaire, c'est-à-dire le smartphone. Sur le smartphone, vous aurez une machine, une IA qui va créer une convergence. Je pense qu'ils cherchent cette convergence. Cette convergence fera que la totalité des traces que vous générez, toujours pareil, par les surfs, par les messages, par toutes les interactions numériques que vous produisez, seront évidemment repaillées et stockées sur cette IA. Mais cette IA aura cette particularité d'être personnalisée, d'être totalement adaptée à vous. Elle connaîtra vos goûts, elle connaîtra vos actions, vos profils, vos achats, vos préférences. Elle connaîtra vos amis, elle connaîtra les gens avec qui vous communiquez le plus fréquemment. Et vous pourrez communiquer avec elle en langage naturel. Elle travaille beaucoup là-dessus, hein, sur ces robots de conversation. C'est encore assez grossier aujourd'hui, mais on le voit en Chine. Là, vous avez entendu parler peut-être de Xiao Ice, qui est un chatbot chinois qui touche déjà 40 millions de personnes et sur lequel beaucoup de Chinois passent beaucoup de temps. Il va y avoir un stade, il va y avoir un seuil où la capacité techno, qui est surtout liée au big data, en fait, parce qu'ils bourrent ça de big data, c'est pas du tout intelligent la façon dont ils procèdent, mais comme ils ont beaucoup de données, ils finissent par faire réagir la machine de la façon dont un être humain réagirait, parce qu'ils vont sur les réseaux sociaux et ils utilisent des réponses à des questions type à partir des réseaux sociaux. Donc ces robots de conversation vont atteindre le stade où ils simuleront suffisamment une réaction humaine pour que le caractère fondamentalement animiste de l'être humain fonctionne et qu'on ait envie de projeter sur cette IA tous les fantasmes qu'on a envie d'y projeter. Alors vous connaissez peut-être tous le film Her de Spike Jonze là-dessus, mais sans parler d'une IA dont on tomberait amoureux, je pense que chaque être humain générera son propre rapport à l'IA. C'est-à-dire qu'il y en a qui voudront que ce soit leur mère, quoi, qu'elle se comporte comme une mère. D'autres comme un père un peu rigide, un peu dur et qui les recadre. D'autres comme un ami assez cool et qui leur fait des blagues. D'autres comme un assistant ou comme une esclave sexuelle ou fonctionnelle. D'autres comme une amante potentielle qu'ils n'ont pas, etc. Mais en tout cas, la projection affective jouera à plein et on sera en permanence en rapport avec un alter ego machinique qui va devenir notre principal interlocuteur. Donc je vous laisse imaginer évidemment ce que ça peut produire en termes de relations humaines. Et Yasser Cichron qui a fait un bouquin très beau, très intéressant là-dessus, sur le fait qu'on va aimer nos robots et qu'on va aimer ces IA et qu'on aura beaucoup de mal ensuite à générer des comportements humains, conflictuels, ou en tout cas de comprendre que notre authentique copine ne veut pas faire tous les efforts que fait l'IA pour nous dans sa vie quotidienne. Donc ça va être extrêmement intéressant sur les modifications sociales, psychologiques que ça va induire. Et je pense que c'est l'étape suivante sur la machine. Donc c'est pas spectaculaire d'une certaine façon, parce que c'est des technologies qui sont là, mais qui dans 10 ou 20 ans, à mon avis, vont exploser, quoi. Voilà, alors je vais peut-être arrêter de parler sans arrêt. Je voudrais juste finir sur un... Voilà, je vais lire, là, j'aime bien des fois lire. C'est un texte que j'avais fait pour une conférence, mais il y a longtemps, et qui donnait un peu ma vision sur la machine, et ça permet peut-être de provoquer le débat et de terminer. Je voulais délirer aussi sur ce que j'avais fait sur ma conférence TED, c'est-à-dire sur pouvoir et puissance, mais on va en parler après. J'avais appelé ça la machination, hominiser sans humaniser. Voilà, je finis juste là-dessus, puis ensuite on lance le débat, et ça sera peut-être plus intéressant que de me voir faire des solos, quoi. Comme on l'a vu, la machine nous a donné pouvoir sur le monde, nous l'a ouvert et nous l'a filtré et recadré avant de prendre sa place de faire monde. Le pire est que la technologie est autoproliférante. Elle sature l'environnement public et privé de travail et de loisirs, l'espace et le temps, le proche et le lointain. Machine à fabriquer des machines, à nous protéger des machines, à réparer des machines, à piloter des machines, à détruire des machines. La machine ne s'est pas retournée contre son créateur. Elle ne s'est pas révoltée comme dans Blade Runner. Elle ne nous a pas éliminés, nous humains, à coups d'apocalypse nucléaire comme dans Terminator, ou assassinés de façon glaciale comme HAL dans 2001. Elle ne nous a pas encore soumis et fait de nous des piles biologiques pour alimenter en énergie comme dans Matrix. Elle a fait mieux en un sens. Elle nous a hominisés continuellement sans vraiment nous humaniser. Elle nous a donné le pouvoir tout en nous retirant la puissance. Bien sûr, nous continuons à fabriquer les machines. Bien sûr, nous en sommes globalement maîtres. Mais on leur appartient plus qu'on ne les maîtrise. Une fois fabriquées, c'est comme si la machine acquérait une indépendance, une étrangeté experte, telle que plus personne n'est aujourd'hui capable de comprendre comment fonctionne un ordinateur ou par quelle magie une onde Wi-Fi informe des pixels et forme une image. La machine ne dépend plus de ce qu'on en fait, comme dans l'ancien paradigme des machines de première et deuxième génération. C'est plutôt nous qui dépendons de ce qu'elle peut faire et nous autorise à faire. On lui a tout délégué, notre sécurité, notre confort, nos tâches répétitives et quotidiennes, nos déplacements, notre mémoire et notre cognition, nos flux de conscience, notre façon d'échanger, d'aimer, de travailler et de nous divertir, notre narcissisme et nos pulsions, et jusqu'à notre liberté d'agir par nous-mêmes, c'est-à-dire notre puissance. Quoi d'étonnant qu'il ne soit plus possible pour un enfant ou un adolescent d'accéder à l'individuation, à la construction de soi, hors des machines et de leurs propriétés. Quel ado aujourd'hui se construit hors du portable, hors de l'Internet, hors du jeu vidéo et de ses écrans? Voilà, c'était une première piste. Donc, je vais peut-être ouvrir des questions et ça me permettra de développer d'autres points, mais je ne vais pas vous assommer de... Je ne sais pas combien de temps, et c'est quelle heure là sur le... Une heure et une demi-heure, c'est nickel. Ben voilà, c'est à vous. Je vous écoute. Bon, tout le monde s'en fout, c'est génial.
Je suis là. Oui, pour le constat, je crois qu'on est à peu près tous d'accord, et en plus c'est dit brillamment avec des très jolis mots. Mais après, parce que c'est vrai que là on a le futur en disant ça va être de pire en pire, on est machin, on est emprisonné, on est cybernétisé, etc. Est-ce qu'il y a des solutions ?
Ouais, bien sûr, il y a toujours des solutions. Bon, t'attaques directement sur les solutions. Bon, on va parler des solutions. Enfin, des solutions. Hein, c'est vraiment prétentieux d'essayer de prétendre avoir sur des choses aussi universelles, aussi quotidiennes et aussi incarnées, aussi immersif que ça. Moi, je crois que on est piégé aujourd'hui par le monde dans lequel on est, qui est un monde ici, qui est un monde comme vous le connaissez, très très néolibéral. Où le capitalisme a été couplé à la technologie et où donc on n'a pas pu envisager la technologie autrement que comme une maximisation du pouvoir. Donc on a mis en place des choses qui sont, je l'ai dit là largement, mais qui fonctionnent sur un principe extrêmement simple, c'est de dire la machine, on doit déléguer à la machine, on doit externaliser vers la machine des actions qu'on faisait apparemment avant nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit faire à la machine. Et ça, c'est remarquablement prégnant, ça répond à la loi du moindre effort chez l'homme, c'est-à-dire faire, c'est quand même une pulsion humaine fondamentale. Faut savoir qu'on a quand même eu des esclaves pendant des millénaires et que la machine est devenue le nouvel esclave. Donc pour moi, la première peut-être piste, c'est d'avoir une sorte de rapport épicurien à la technologie. Quand je dis épicurien, c'est vraiment au sens profond d'Épicure, c'est-à-dire que maintenant, le mot est devenu synonyme un peu de bon vivant et d'aimant la bonne bouffe et la bonne bière, mais évidemment, Épicure, c'était pas ça. Épicure, c'était une sorte d'ascèse intelligente dans l'utilisation des plaisirs et la capacité à distinguer les désirs vains des désirs naturels et des désirs superficiels. Et je pense qu'on a un rapport à la technologie qui, aujourd'hui, est complètement immature, complètement infantile, parce que la technologie est très neuve. Et ce monde anthropotechnique sursaturé est finalement un phénomène relativement récent dans l'histoire humaine. En tout cas, il date de pas plus de 40 ans. Et que par rapport à ça, on n'a pas encore atteint ce stade où on sait trier, sélectionner, distinguer entre les technologies qui, encore une fois, nous ouvrent un monde, nous permettent de déployer des capacités propres et donc une puissance personnelle, et les technologies qui nous ferment le monde en nous croyant nous apporter du pouvoir. Par exemple, je vous donne un exemple que moi j'aime beaucoup, c'est l'exemple du GPS. L'exemple du GPS, finalement, il est très complexe parce que vous arrivez dans une nouvelle ville comme ça et puis vous ne connaissez pas l'adresse où vous devez aller voir un pote et puis c'est 40 allées de Granado, vous ne savez pas où c'est. Et vous avez deux possibilités, soit vous sortez la carte routière, vous commencez à galérer, vous regardez les rues, vous essayez de vous orienter par rapport à la mer, je parle de Marseille là, hein, par rapport à la mer, par rapport au Calanque, par rapport au David, à Notre-Dame de la Garde, etc. Et puis, si vous êtes feignant, et on est tous feignants, et on a tous, on suit tous notre pente naturelle, mais souvent en descendant et pas en montant, et je pense que c'est la première chose qu'on devrait apprendre aux gosses, c'est suite à pente naturelle, mais que ce soit en montant, c'est qu'on va utiliser le GPS. Donc on va géolocaliser l'adresse, on va appuyer sur le bouton, et puis on va dire 200 mètres à droite, tourner à gauche, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, à ce moment-là, la chose évidente, c'est que tu vas perdre en capacité de t'orienter dans Marseille. C'est-à-dire que tu vas beaucoup moins repérer les rues, tu vas beaucoup moins repérer les avenues, les parcs, les cafés. Tu ne vas pas lever la tête, tu vas peut-être se lever la tête, mais bon, pour regarder comme ça et sans t'imprégner, parce qu'il n'y a pas d'exigence de t'orienter dans ce monde-là, puisque tu sais que la machine va t'y amener. Donc tu vas, de toute façon, perdre un rapport à la ville que tu aurais pu avoir si tu galérais, si tu tournais en rond, si tu errais un peu dans la ville et sur lequel, et si tu avais besoin justement de prendre des points de repère. En même temps, tu peux très bien le faire une fois, c'est-à-dire utiliser le GPS parce que tu es fatigué, puis le lendemain ne pas le faire, utiliser le GPS de façon intermittente, utiliser le GPS de façon intelligente, tu as plein de possibilités, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément te bousiller la cognition, ça ne va pas forcément te bousiller ta capacité d'orientation de l'utiliser une fois, mais il va falloir arbitrer. Et ce qu'on ne fait pas, c'est que généralement, on suit simplement la loi du confort, la loi du moindre effort, et simplement on fait faire. Voilà. Or, il faut commencer à se poser la question, et je pense que c'est la première dimension éthique du rapport à la technologie, c'est de se dire, j'ai une technologie à disposition dans ma bagnole qui est le GPS, est-ce que je l'utilise ou pas? Et quand c'est que je l'utilise ou pas? À quel rythme je l'utilise ou pas? À quelle fréquence? Est-ce que moi, Alain Damasio, c'est intéressant que je m'oriente tout seul? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que je suis bon à l'orientation? Est-ce que, au contraire, il faut mieux que je me fasse guider? Est-ce que plus je me fais guider, plus je perds la capacité d'orientation? Est-ce que je suis quelqu'un qui peut me faire guider une fois et ça ne me fait rien perdre du tout pour la prochaine fois? Et ça, ça dépend de chacun. Ça dépend de votre vie, de votre vécu, de vos possibilités, de vos envies, de vos capacités, etc. Donc, il y a une interrogation à se poser, très personnelle vis-à-vis de ça. Moi, si je prends le rapport au portable, j'ai décidé de ne pas avoir de portable. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que dans mon processus créatif, le fait de pouvoir être joint à n'importe quel moment était une forme d'angoisse pour moi. Tu vois ? Il y en a qui ont l'angoisse de pas être joint. Moi, j'ai l'angoisse d'être joint. Et aussi, je me suis rendu compte que j'avais besoin, quand je me déplaçais, notamment quand je monte à Paris ou je vais à Grenoble ou je vais n'importe où, j'ai besoin que tout d'un coup, je sois dans un face-à-face complet avec l'environnement dans lequel je suis, avec le train, avec les gens que je rencontre, avec la ville, avec la nature, et que j'ai absolument pas besoin de cette espèce de non-lieu du téléphone portable où de temps en temps je vais décrocher et être parasité par ce rapport secondaire et médié à l'électronique. Donc je me suis rendu compte que pour moi personnellement c'était une mauvaise chose, voilà. Et que ça ne répondait pas à un désir fondamental, que je pouvais très bien m'en sortir sans le portable, ce qui faisait que je m'organise autrement. Et donc, j'ai créé un épicurisme technologique par rapport au portable qui est que je ne l'utilise pas, et c'est très radical, bon, c'est très discutable aussi, mais j'ai l'impression que ça accroît ma puissance, voilà. Ça accroît ma capacité à faire les choses par moi-même, et je pense que c'est fondamental. Voilà, donc il y a un premier mouvement qui est ça. Donc, se demander sur chaque technologie qu'on nous apporte, qu'on nous vend, qu'on nous défend, et on n'arrête pas de nous en vendre, de dire, ok, cette technologie m'apporte un pouvoir, c'est évident, elle va me permettre de faire quelque chose de plus et de le faire à ma place. Maintenant, qu'est-ce que ça me retire en termes de puissance? Qu'est-ce que ça m'appauvrit dans mes propres capacités personnelles? D'accord? Donc, dans la puissance de persévérer dans mon être, comme dit Spinoza, ou dans la capacité à aller au bout de ce que je peux, comme dirait Nietzsche. Voilà, donc c'est des choses extrêmement importantes. Et je pense que, quand on discutait du transhumain, du très humain, etc., pour moi, c'est extrêmement important de dire, ok, il y a une direction qui, pour moi, serait le très humain, c'est-à-dire que, pour moi, on est doté d'un cerveau qui est absolument remarquable, d'un corps qui est fabuleux, et surtout d'une interaction entre un cerveau et un corps qui fait la grandeur et la noblesse et la fécondité absolue de l'être humain. Quand je vois le transhumaniste qui traite le corps comme de la viande, je me dis qu'ils n'ont absolument rien compris, parce que toute l'intelligence qu'on produit, c'est une interaction finalement entre le corps et l'esprit. C'est ça qui fait notre force. Et par rapport à ça, on est très loin d'avoir été au bout de ce qu'on peut, on est très loin d'avoir des capacités de perception suffisamment étendues, on est très loin d'éduquer les gens à les utiliser. Simplement, je prends le modèle d'éducation et à la créativité dans les écoles, c'est une pure catastrophe. On est très loin de permettre aux gens et d'encourager les gens à développer leur créativité, alors que c'est des capacités qu'on a tous en nous. Donc tout ça fait que, à partir du moment où on me donne une technologie pour faire à ma place, je vais court-circuiter le circuit d'acquisition de cette capacité et je vais l'appauvrir. Donc tout accroissement de puissance se double potentiellement d'une réduction ou d'un appauvrissement de la puissance. La puissance étant définie comme la capacité à faire directement les choses avec les capacités propres qui sont celles d'un être humain doté d'un cerveau et d'un corps à peu près en état de marche. Voilà. Donc c'est la première chose. Donc moi j'ai beaucoup de je trouve que ce critère de pouvoir et puissance est extrêmement important pour essayer de se situer. Voilà, c'est un critère. Après Voilà, j'appelle ça impuissanté ou empuissanté, quoi. Certaines technologies nous impuissantent et d'autres nous empuissantent. C'est la première chose. Après, je crois qu'il y a un défaut propre à la machine et qui demande pareil une sorte de sobriété, d'assaise et de réflexion très forte et de mise à distance à des moments du fait machinique, qui est que, moi j'appelle ça dans les furtifs, j'appelle ça le rouge ou vert. Alors, j'ai déliré là-dessus, pourquoi rouge ou vert, enfin, des fois tu fais des jeux de mots à la con et puis tu te dis, bon, tu les gardes, tu sais pas pourquoi, mais... En fait, j'aimais bien l'idée. C'est-à-dire que le rouge, pour moi, est vraiment la couleur de l'intensité. C'est la couleur politique par excellence, bien sûr, mais c'est la couleur de l'intensité. C'est la couleur du spectre lumineux qui est la plus captable. Et ça répondait à cette question que je me pose tout le temps, c'est comment être en vie, comment être le plus vivant possible, comment avoir une intensité vitale très forte, une fécondité dans le rapport au monde qui soit maximale. Et donc, je l'ai associé à cette couleur rouge que j'aime beaucoup par excellence. Et je l'ai accolé le terme ouvert, c'est-à-dire être dans l'ouvert. Et l'ouvert, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que souvent, les machines qu'on vous donne, les technologies qu'on vous donne, elles vous permettent de faire. Or, une des dimensions de l'être humain, c'est la contemplation. C'est l'écoute, c'est la réception, c'est la capacité à percevoir les choses. Et cette capacité à percevoir, à recevoir, à intégrer, à éponger le monde, à être un buvard par rapport au monde, cette capacité-là, elle est magnifique. Elle fait partie de ce que Spinoza appelle la capacité à être affecté. C'est ça qui donne l'affect, qui capacité à être affecté par les choses et à rencontrer le monde. Et on rencontre parfois un livre, on rencontre parfois un film, on rencontre parfois une femme, on rencontre parfois un enfant, on rencontre un parc, on rencontre une heure de la journée, on rencontre une lumière. Et toutes ces rencontres, toute la perception, la capacité qu'on a à épouser, à recevoir, à éponger ces rencontres et à être affecté par ces rencontres, c'est ce que j'appelle le rouge ou vert. Voilà. Et plus on élargit ce spectre de réception, ce spectre d'écoute, ce spectre d'attention au monde, plus, à mon avis, on est un être humain vaste. Plus notre surface intérieure, notre volume intérieur s'accroît. J'appelle ça s'évaster, quoi. Plus on s'évaste, plus on est quelqu'un d'un peu plus grand, d'un peu plus gros, d'un peu plus... Mais c'est un des très mauvais termes, d'un peu plus simplement... d'avoir une surface sensible un peu plus vaste, voilà, plus grande, qui permet d'être touché par plus de choses. Voilà. Et ce que je vois dans la technologie d'aujourd'hui, et c'est ça qui me gêne beaucoup dans le fait technologique actuel, c'est que on nous filtre le monde, voilà. Les écrans font écran au monde, c'est une évidence, mais surtout ils nous filtrent le monde, ils nous l'assèchent, ils nous l'appauvrissent, ils nous le reformatent, ils nous le redéfinissent, et ils empêchent ce spectre des coups et ce rouge ouvert de s'étendre. Et je pense que c'est une conception qu'on doit avoir en tête quand on a un rapport à la technologie. Moi, si je vous prends par exemple les moteurs de recherche, je trouve ça extraordinaire. Ça m'aide à écrire, ça m'aide à chercher, ça m'aide à trouver du sens et de la pensée. Mais si je passe mon temps à cliquer sur Wikipédia de lien en lien, ça va finir par refermer mon cerveau. Donc je vais l'utiliser, tomber sur un texte de Spinoza, de Deleuze, de Nietzsche, de Foucault, peu importe, et tout d'un coup m'arrêter, de Simondon, m'arrêter, l'imprimer, le lire, me poser dans mon fauteuil et de rester sur ce texte pendant une heure et d'y réfléchir. Voilà. Si la technologie sert à ça, je trouve qu'elle est bien utilisée. Si la technologie sert simplement à circuler dans la frénésie des liens et d'une espèce de savoir comme ça accumulé, je trouve ça complètement débile. Donc voilà, il y a cette position d'être dans le rouge ou vert, c'est-à-dire d'avoir une position de réceptivité et de perception et de toujours se rappeler que la technologie a aussi un rapport de filtre qui est extrêmement dangereux et se méfier de ce filtre. Et se méfier de cette filtration, cette interfaçage qu'on a en permanence à cause de la technologie. Et c'est pour ça que ça m'exaspère aussi des gens dans le métro, dans le bus, etc., qui sont constamment sur l'écran, donc qui ne sont pas présents à ce qui se passe, ils ne sont pas présents au train, ils ne sont pas présents au paysage, ils ne sont pas présents aux autres. Alors parfois c'est tellement déprimant, à Paris c'est tellement déprimant que je comprends que les gens se referment dans le... Il y a des raisons à ça, tu vois. Mais malgré tout, à des moments, il faut poser et juste être en face des gens et puis être disponible à ce qui se passe. Voilà. Donc c'est un premier élément de réponse, quoi. Après, là j'ai déjà répondu trop longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. questions
Attends, je suis juste là. Alors, du coup, moi ce que je me demandais, donc juste pour repiquer sur les réponses, puisque sur ce que vous disiez aussi... est-ce que simplement, pour résoudre le problème de différence que vous évoquiez entre les technologies de première et deuxième génération, enfin les machines de première et deuxième génération et les machines de troisième génération, est-ce que c'est pas aussi simplement une question de savoir les utiliser ? Moi, la question que je me pose, c'est concrètement, je pense que savoir correctement utiliser un ordinateur, savoir comment ça fonctionne derrière, comment fonctionne le binaire, comment fonctionne un réseau Wi-Fi, comment fonctionne une page de code, etc. Je pense que derrière, c'est intéressant de l'apprendre et de le savoir pour comprendre la façon dont ça fonctionne et du coup aussi savoir utiliser l'outil de façon plus pointue et plus intéressante derrière. Mais du coup, c'est voilà, c'est comment mettre en place aussi ça derrière dans une, enfin comment l'enseigner et comment éduquer les gens pour le faire. Et je pense que c'est un problème avec les technologies de troisième génération, c'est que comme c'est quelque chose de très récent, les gens se sont retrouvés à acquérir ces technologies sans du tout en comprendre le fonctionnement. Et du coup, on se retrouve avec forcément des utilisations qui sont pas bonnes, enfin voilà, qui sont qui vont avec toutes les dérives qui peuvent exister, quoi.
Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que tu touches un point extrêmement important qui est la réappropriation de la machine. Et c'est le problème sur les machines informatiques, c'est qu'on est, on est dépossédé de la capacité à les modifier, à les réparer, à les transformer. Et c'était génial dans les machines de deuxième génération, c'est-à-dire qu'on pouvait bricoler le moteur, on pouvait ouvrir le moteur et le bricoler, faire la mécanique, c'est l'éloge du carburateur, vous connaissez peut-être ce livre, etc. C'est-à-dire la capacité à intervenir directement sur la machine et à la faire sienne. Il y a un mouvement qui revient là-dessus et que je trouve très, très chouette, c'est le mouvement des makers, c'est le mouvement des hackers, des hackerspace, où les gens, bah, effectivement, apprennent, s'auto-apprennent et s'entre-apprennent à apprivoiser la machine, à se la réapproprier, à la hacker au sens vraiment premier de la bricoler. Et ça, ça me paraît fondamental et c'est une des grandes dimensions de la bonne utilisation, comme tu dis, de la machine, tu vois. En ayant bien sûr conscience que ça implique aussi un rapport au monde, et que ce rapport au monde, il reste, il est, c'est pas parce que vous savez bricoler votre ordinateur que ça va changer certains faits fondamentaux de ce rapport au monde. Mais par contre, ça permet quelque chose d'essentiel, c'est que on reprend la main, tout simplement. Et reprendre la main, c'est fondamental parce que ça rend puissante. Et si vous êtes capable de hacker votre matériel, de le changer, de le modifier, de le bidouiller, vous avez une vision totalement différente de l'informatique. Si vous êtes capable de coder, et les codeurs aujourd'hui, c'est, ben voilà, les hackers et les codeurs, c'est l'avenir, à mon sens, des machines de troisième génération. Tout le monde devrait savoir hacker et coder, quoi, tu vois, ne serait-ce que pour bousiller tous les systèmes automatiques et la gouvernance algorithmique qu'on nous prépare. C'est fondamental. Et ça devrait être enseigné dans toutes les écoles. Voilà. T'as complètement raison, ouais.
Alain, j'entends ce que tu dis, mais en même temps, il y a quelque chose qui me gêne. Enfin, pas qui me gêne, c'est juste que comment on fait pour pas être battu d'avance ? C'est-à-dire que tu vas avoir trois personnes qui vont effectivement apprendre le code ou qui vont hacker, mais derrière, il y a des millions, des milliards qui sont mis par les GAFA, notamment, pour arriver à ça. Donc nous, en tant que personne, faire, c'est super, la puissance, c'est super, l'intensité, c'est super. Apprendre, c'est super, mais en même temps, comment on fait pour que ce soit plus général? Comment on fait pour se battre sur un truc aussi vaste que ça? Comment c'est pas perdu d'avance?
Bah, c'est pas perdu d'avance comme tous les combats politiques de quelque ordre qu'ils soient. C'est-à-dire que ça fonctionne toujours de la même façon pour moi, en tout cas. C'est un, il y a un premier combat personnel, et ça, ce combat éthique personnel, il est fondamental. Ça, c'est des prises de conscience qui sont données, ben, oui, parfois par les auteurs de science-fiction, par les philosophes, par les sociologues, par des penseurs, etc., qu'on lit et qui vont nous toucher et qui vont faire que notre comportement individuel, au départ, va déjà être modifié. Mais évidemment, ça ne suffit absolument pas. Après, il y a toute la liaison collective du combat qui doit être mise en place, qui passe par la militance, évidemment, mais qui passe énormément aussi par l'éducation. Et ça, c'est un point fondamental. C'est-à-dire qu'un des premiers combats à mener, c'est d'obliger que dans l'éducation nationale, on apprenne aux gamins à coder, tu vois ? Qu'on leur apprenne à démonter l'ordinateur, à comprendre comment ça fonctionne, qu'on leur apprenne Internet, qu'on leur apprenne à apprivoiser cette technologie plutôt qu'ils la reçoivent comme un fait social massif et sur lequel personne n'a été préparé. Moi, je suis sidéré, par exemple, aussi même sur l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de parents qui éduquent leurs enfants à la technologie, vous connaissez beaucoup de parents qui leur apprennent à utiliser Internet, à utiliser Facebook, à utiliser un jeu vidéo. Qui apprend à son gamin à utiliser les bons jeux vidéo? Le jeu vidéo, il y a des jeux vidéo extraordinaires pour le développement cognitif, pour le développement de la mémoire, pour le développement de l'orientation, pour le développement de la hiérarchisation de l'information. Il y a des jeux fantastiques sur l'imaginaire. Il y a des jeux parfaitement régressifs. Il y a des jeux comme, vous les connaissez tous, hein, mais c'est putain de jeux du type Candy Crush ou des choses comme ça, qui sont des jeux à boucle rectoactive et extrêmement courtes et qui sont des vraies destructions addictives de toute pensée, de tout développement rapport au monde. Donc, pour moi, c'est absolument pas perdu d'avance, mais c'est comme tout, c'est-à-dire il faut se bouger le cul, sortir les doigts et mettre en place des dispositifs collectifs au niveau éducatif, au niveau des associations, au niveau de la militance, au niveau des comportements individuels, au niveau des discours publics, au niveau des fictions qu'on produit, parce que l'imaginaire est extrêmement important aussi dans la façon dont on se comporte vis-à-vis de la technologie. Donc, pour moi, c'est absolument pas perdu d'avance. Simplement, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris la vague, elle a été extrêmement rapide, on l'a pris en pleine gueule, on a été submergé. Personne n'a eu d'éducation Internet, en tout cas dans la génération qu'on a, personne n'en a eu. Et encore une fois, aucun parent aujourd'hui que je vois autour de moi ne fait ça, quoi, tu vois. Et quasiment aucun parent n'est même conscient que c'est vraiment important, quoi. Tu vois, de dire à un parent, bah, attention, il va falloir que tu éduques ton gamin aux jeux vidéo comme tu éduques ton gamin à la télé, au cinéma, etc. Aujourd'hui, la gestion de la télé, c'est à peu près un truc qui est à peu près intégré dans les familles, mais personne, enfin moi en tout cas, je ne sais pas si vous voyez ça, mais. Donc ça veut dire qu'on est un gros temps de retard, mais ça va arriver, ça va venir. On va commencer à comprendre que dans la façon dont un ado se construit comme sujet, le rapport aux jeux vidéo, le rapport à l'Internet, le rapport à Facebook et aux réseaux sociaux est absolument fondamental. C'est ça qu'il construit et il constitue en numéro un, quasiment avant même le rapport parental et parfois même avant le rapport scolaire, quoi. Donc, bon Dieu, voilà, en soyons conscients simplement de ça et puis ça va venir. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui va venir. Mais ça ne sera pas facile parce que derrière, évidemment, tu as des énormes forces technocapitalistes qui sont là pour laminer ça et bousiller ça. Mais bon, moi, je suis toujours optimiste sur ce genre de choses et je pense que la résistance est toujours là, elle est toujours présente, elle est toujours possible, quoi. Donc, mais il faut une prise de conscience, ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les... Ouais, devant, il y a... Moi, je ne vois pas, ils m'ont collé les spots dans la gueule, c'est super cool. C'est...
ouais, ici, oui, c'est salut. Pour revenir un peu sur l'idée d'un monde sans machines, parce que du coup, là, on imagine un peu que les machines vont continuer à être développées et tout, puisque c'est bien en marche, sauf que pour plein de raisons, il peut y avoir des problèmes... Enfin, on a des problèmes d'énergie et des choses comme ça. Et on peut imaginer qu'à un moment, on ne pourra plus utiliser les machines, ou en tout cas plus les développer, et peut-être même devoir régresser dans leur utilisation, un peu dans Ravage de René Barjavel, par exemple. Ça s'arrête d'un coup, mais là, ça ne s'arrêterait pas d'un coup, c'est inimaginable. Mais du coup, quel monde on peut imaginer après? Et comme l'homme se définit un peu par la machine, encore plus actuellement, qu'est-ce que sera l'homme s'il n'y a plus de machine après?
Il s'en sortira, c'est évident, mais il aura un sacré choc. Moi, je pense que ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir des sortes de cures ascétiques à des moments. C'est-à-dire des cures sans machine. Voilà. Un monde sans machine, c'est absolument impossible aujourd'hui parce que voilà, on est entièrement constitué et tissé de machines. Mais par contre, de décider que sur une semaine, sur 10 jours, sur un mois, sur un moment donné, tu vas avoir une existence absolument non corrélée à aucune machine, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça t'oblige à tout réapprendre, ça t'oblige à remobiliser les capacités que tu as en toi parce que tu es un être humain et que tu n'utilises plus depuis longtemps. Et ça me paraît super intéressant et super riche de pouvoir les utiliser de temps en temps. Là, tu vois, on a été à la ZAD hier et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir que beaucoup de cabanes faites dans la ZAD n'ont pas l'électricité, n'ont pas l'eau courante, n'ont pas de chauffage. Et donc, les gars, ils se posent là, les nanas, elles se posent là et elles doivent réinventer comment... Alors merde, comment je trouve de l'eau? Comment je vais chercher de l'eau? Comment, si je veux avoir de l'électricité ou alimenter mon portable ou mon smartphone ou machin, si je veux pouvoir communiquer avec l'extérieur, comment je fais? Je mets une éolienne, qu'est-ce que je fais? Comment je vais chercher? Il y a des panneaux solaires qu'ils ont récupérés dans les camions et qui commencent à installer, ils sont défectueux mais ils arrivent à s'en servir. Comment je réinvente cet apport de la machine et comment aussi j'arrive à vivre sans, tu vois? Même au niveau du courrier, ils n'ont pas toujours le courrier parce que voilà, il n'y a pas de lieu défini, etc. Donc si tu veux des expériences comme la ZAD, je trouve ça passionnant au niveau du rapport d'un monde sans machine, tu vois? Il y a vraiment, ils ont un rapport assez minimal, assez sobre, même ultra sobre, à l'environnement technologique et machinique. Et du coup, si tu vas dans la ZAD et que tu passes un mois, une semaine, 3 mois, 5 ans, peu importe ce que tu veux en faire ou ce que tu veux vivre, mais c'est évident qu'au niveau des capacités personnelles, tu vas développer des choses que tu ne développes absolument pas en milieu urbain, en temps normal. Et ce type d'assaise positive, hein, tu vois, c'est pas de se mortifier, etc. Mais ce type d'assaise où tu retrouves ta puissance personnelle et tu te rends compte que tu peux faire sans la machine, effectivement, tu vois, je pense que c'est super positif. Voilà, c'est super intéressant et intense aussi. Et tu retrouves des dimensions vitales qu'on a tendance à perdre, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis assez pour ce genre d'expérience régulière et de phénomène de coupe régulière. Ouais.
Moi, c'était un peu un complément en fait à ce qui vient d'être dit. C'était un peu dans la même veine. J'aime bien faire de la prospective et je me pose la question de qu'est-ce que va devenir notre société dans 30 ans, 40 ans. Et en fait, je pense que pour l'instant, on a été dans une sorte de course à la complexification et l'usage des machines, ça fait partie de ça. Et je pense que c'est un mécanisme qui date d'avant en fait, le néolibéralisme. La course à la complexité et à l'efficacité, c'est un mécanisme qui est naturel tout simplement et qui existe avant le capitalisme, qui existe déjà dans la nature, mais qui est contrebalancé par le besoin de polyvalence des sociétés, des individus, des organismes. Et à mon avis, je pense que la course à la machine va à un moment être contrebalancé par le besoin de polyvalence et d'adaptation. Et je pense que c'est quelque chose que l'humanité devrait garder et devrait sauvegarder, parce qu'en cas de choc, quel que soit le choc, on a besoin de polyvalence pour s'adapter, et l'efficacité nous est plus d'aucune utilité à ce moment-là.
Ouais, complètement d'accord, mais c'est, ça rejoint un peu ce que j'essayais de dire autrement. C'est-à-dire que tu perds complètement la capacité de résilience, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un blackout électrique, on est complètement paumé, quoi, tu vois. Aujourd'hui, quand quelqu'un perd son portable, c'est la panique absolue. J'ai vu des crises de panique parce que les gens perdent leur portable, tu vois. Et t'as envie de rigoler, quoi, tu vois. Mais non, tu rigoles pas, parce que les gens sont interfacés tellement au monde à travers le portable que ça devient insupportable de le perdre. Donc, tu perds une capacité de résilience, d'autonomie, si tu veux, et ce que j'appelle moi de puissance de vivre, parce que tu as trop délégué, tu as trop externalisé vers la technologie, justement, quoi, tu vois. Et c'est là qu'un équilibre est à trouver, et à trouver à titre personnel et collectif dans ce rapport-là, ouais. Mais complètement, et la polyvalence, c'est fondamental. Sinon, tu ne t'adaptes plus. Ouais. Ouais.
Moi, ça me fait penser à quelque chose sur le, qui a été abordé. Alors, c'est plus un film, c'est le Label Verte avec Colin Serrault. Ici, pardon. Et en fait, c'est le grand rejet, en fait, ce moment où on décide par nous-mêmes de dire stop, de reprendre conscience de ce qui nous entoure, et d'aller redécouvrir, refaire nous-mêmes ces gestes du quotidien qu'on a perdus. Et je sais pas, c'est une forme de question, mais qu'est-ce qui a merdé avec ce schéma de l'évolution où on part d'un singe qui revient vers un humain simiesque? Est-ce que ce qu'on a raté, justement, c'est pas ce plaisir de faire et ce plaisir de comprendre par nous-mêmes?
Tu sais, il y a de l'ordre de ça. Mais je crois aussi qu'il y a eu... J'en ai pas parlé. Je trouve important, quand tu analyses des phénomènes comme la technologie, la technophilie, et cet envahissement massifié de la machine, d'essayer de poser ça en termes d'économie de désir. Tu vois, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quels sont les désirs humains qui sont derrière et qui alimentent, j'ai envie de dire, la machine à absorber de la machine, ou la machine à se laisser vampiriser par de la machine. Je vous ai pas parlé de ça, mais je pense que c'est important d'en parler, et notamment il y a un phénomène que je trouve propre à l'époque, qui est un phénomène de conjuration des peurs et de volonté de réassurance. Ça, je pense que c'est assez propre à notre époque, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui s'est ultra libéralisé, qui s'est ultra individualisé dans les pratiques, et qui a amené beaucoup de liberté par cette individualisation aussi. Il faut pas cracher dessus. On l'a cherché, on l'a voulu aussi, ce côté individuel, parce qu'il nous libère. Mais en même temps, on est dans un monde où du coup tous, on est en compétition avec tous, on est des atomes, on est confronté aux autres. Et par rapport à ça, l'environnement étant extrêmement mouvant, extrêmement rapide, on a un besoin de contrôle. C'est-à-dire qu'on a une compulsion au contrôle qui est très forte. Et ce contrôle, on a besoin que ce soit la machine qui l'opère. Donc, on vient conjurer les peurs par l'utilisation de la machine. Et ça, je pense que c'est un phénomène et une pulsion de désir extrêmement forte et très difficile à contrecarrer. Il y a la peur d'être seul, hein, il y a la peur d'être isolé. Et ça, tout l'empire des technologies de communication est venu répondre à ce plus jamais seul, qui est un besoin presque régressif, hein, un besoin de fusion permanente avec nos proches, avec les gens qui nous aiment. Mais il y a aussi vraiment cette peur que les choses nous échappent, que l'environnement nous échappe, qu'on ne puisse pas contrôler qui nous appelle. Vous savez, Facebook, hein, moi, je trouve ça incroyable, cette histoire d'amis, parce que... tu filtres qui sont tes amis, tu vois. Ce qui n'était pas le cas avant, tu es obligé de te taper avant les gens que tu n'avais pas envie de te taper dans le milieu professionnel, etc. Et là, tu es dans un monde virtuel, en tout cas un monde numérique, où tu peux choisir qui va venir te parler, te percuter, etc. Et c'est très, 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 très doux, très filtrant et apparemment extrêmement cocoonant. Et en même temps, tu perds beaucoup de l'altérité. Tu perds beaucoup de cette dimension de combat, d'affrontement des conflictualités, de capacité à te confronter à des gens que tu n'aimes pas. Et c'est les gens que tu n'aimes pas et qui sont différents de toi qui te font grandir, quoi, tu vois. Et après, il ne faut pas s'étonner pour moi que le racisme augmente, etc. C'est parce que le rapport à l'altérité, on le perd aussi, parce qu'on ne reste qu'entre nous et avec des amis ou des gens qui ont les mêmes réseaux d'affinité que nous. Donc, je ne suis pas du tout en train de répondre à ta question, je crois. Je ne sais plus ce que tu m'as demandé. Mais voilà, je crois que c'est un moteur extrêmement fort. C'est-à-dire la conjuration de la peur, la réassurance, le besoin de réassurance a été extraordinairement flatté par notre société. Quand vous regardez, moi c'est quelque chose qui me rend malade, les pubs des années 70 et les pubs 40 ans après, si vous voulez, une bagnole, on la vendait dans les années 70 comme avec la vitesse, avec la liberté, avec la sauvagerie, on va s'éclater, on va s'émanciper, on va faire des trucs fous, etc. Aujourd'hui, on te vend de la sécurité. On te vend de la sécurité. Tout ce qu'on te vend, c'est au nom du confort et de la sécurité. Toutes les phrases qui commencent dans les lieux publics, c'est pour votre confort et votre sécurité. C'est-à-dire qu'on a, on a flatté une domestication, une servitude volontaire, une obéissance tranquille, un technococon, une réassurance et un côté extrêmement maternant qui est quand même super, super tragique et qui fait que la liberté n'est plus le besoin prioritaire, n'est plus la dimension affective prioritaire qu'on valorise chez les gens. Ce qu'on valorise, c'est le fait de se rassurer, de contrôler, de gérer. Vous savez, le mot gérer, etc. Mais les gens adorent contrôler, adorent avoir leur smartphone pour contrôler leur existence à travers cet objet. Quoi. Donc, la technologie vient répondre à ça. Et ça, c'est très dur à contrer parce que ce besoin de contrôle, il est lié à la crise d'angoisse, il est lié à beaucoup de choses qui nous perturbent et que la technologie vient absorber, vient contrôler. Et si, c'est pour ça que j'ai parlé de l'intelligence artificielle et personnalisée, ça serait vraiment l'étape ultérieure là-dessus et très puissante, c'est que non seulement vous utilisez votre portable et vous filtre le monde, mais là, c'est quelqu'un qui vous connaît. Et moi, j'appelle ça « my unique machine », c'est « mam », c'est la maman, quoi, tu vois. Et je suis sûr qu'il y en a un qui va l'appeler comme ça, « my unique machine ». Et c'est elle qui devient ton interlocuteur, qui te filtre complètement le rapport au monde et d'une façon douce, correspondant à toi, étant flattant tout ton narcissisme, ton ego et surtout te mettant jamais en danger, te mettant jamais. Et on a besoin d'être en danger, on a besoin de se casser la gueule, on a besoin d'être en conflit, on a besoin d'être confronté au dissensus pour grandir, pour être plus vaste, quoi. Et pour croître, quoi. Donc, ouais, ça me fait flipper, ça, ouais. J'ai pas répondu du tout, je crois, mais bon, c'est pas grave. Je suis parti dans mon délire. Ouais, il y a des mains derrière.
C'est moi qui ai le micro.
Ouais.
Je suis là.
D'accord.
Alors, salut. Alors moi, je m'interrogeais justement sur l'évolution que tu as dit tout à l'heure sur les différentes sortes de machines. Tu veux que je me décale ou pas ?
Ouais, c'est bon. Ouais.
Et à t'entendre, on dirait même que la machine et même l'outil par la technique est une suite logique de l'humanité.
Ouais,
que l'humanité est née avec la technique. Et du coup, je m'interrogeais par rapport à la position des futurs créateurs de demain. Je suis designer.
Ouais.
Justement, il y a une réflexion à poser, je pense, au niveau des objets qu'on crée, sur qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, tu l'as répété, et quels seraient les procédés de création avec comme réflexion principale, justement, ne pas... alors, t'as dit quoi ? Empuissanter ? Non.
Ouais, empuissanter ou impuissanter.
Empuissanter l'être humain, quoi. Parce que la machine est une suite logique. Et t'as dit qu'il y avait 4 sortes de machines, mais demain, il y en aura 7, 8, 9, 10, 7. Après le transhumanisme, il viendra une autre sorte de machine.
Ouais. Voilà. Ben, moi, je peux pas te répondre parce que là, c'est des enjeux de design, justement, qui sont des enjeux fantastiques. C'est-à-dire, pour moi, l'interfaçage homme-machine, c'est un champ absolument fabuleux et très riche. Mais si tu veux, pour moi, tu poses la question de l'enjeu fondamental de ton métier, quoi, tu vois. Et ton enjeu fondamental, c'est comment faire des technologies ou des objets ou des interfaces qui ouvrent un rapport au monde plutôt que de le fermer, quoi. Et qui rend les gens plus intelligents plutôt que plus stupides. Moi, je te donne juste un exemple qui m'avait frappé. J'avais vu ça à Grenoble, justement, lors d'une conférence sur l'interaction homme-machine. Et je voyais un étudiant, il travaillait sur des interfaces de navigation, quoi, tu vois. Et il montrait le frame classique, c'est-à-dire que nous, on prend la souris ou on prend le doigt. Et puis on va sur c'est des frames carrés, quoi, et on va sélectionner dans le menu un truc, on clique dessus, puis ça ouvre une page ou ça ouvre un lien, etc. Et il expliquait que ça a été cet interfaçage et cette procédure de navigation a été posée parce que c'était la plus rapide à acquérir, c'est-à-dire que n'importe quel blaireau, n'importe quel débile, en 2 minutes il sait naviguer comme ça. Et le mec, ils avaient créé d'autres types d'interfaces qui étaient beaucoup plus complexes, qui fonctionnaient par des demi-cercles, qui fonctionnaient par... c'est-à-dire que tu faisais un demi-cercle avec ton doigt, et ensuite tu créais une sorte de vecteur comme ça, c'est-à-dire que tu faisais ça, puis avec ton doigt tu poussais là, et t'accédais à des niveaux d'information qui étaient... admettons que t'es... je dis n'importe quoi, hein, mais t'as 5 dossiers au niveau 1, puis dans chaque dossier, tu as 4 dossiers au niveau 2, puis dans chaque dossier au niveau 2, tu as encore 3 dossiers, etc. Et que tu veux accéder au niveau 3 à une information. Donc, imaginons, tu as 72 objets et les objets sont dans le 6e dossier, machin, moi. Et il te montrait qu'avec cette technique des arcs de cercle, etc., qui était beaucoup plus difficile à maîtriser, qui des fois mobilisait 2 doigts, 3 doigts, etc., tu accédais à des niveaux de profondeur de l'information beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus dextère et géniale qu'avec les interfaces classiques, tu vois, du frame et machin. Sauf que pour maîtriser ça, il faut 2 heures, tu vois. Et qu'aucune espèce de putain de Google, machin, ne voulait, de Microsoft à l'époque, etc., ne voulait que les gens perdent 2 heures à faire ça et ne voulait qu'il y ait un apprentissage pour apprendre à manipuler le truc. Et du coup, on est venu à l'interface de base qui est l'interface débile sur lequel on est tous, quoi, tu vois. Et encore, ils ont amélioré un tout petit peu avec le tactile et tout. Mais voilà, et c'est un très bon exemple, tu vois. C'est-à-dire que si t'es designer, pour moi, tu dois pousser à ce type d'interfaçage, ces interfaçages intelligents qui sont plus brillants, plus mobiles, plus agiles, qui développent d'autres capacités. Et c'est une mission, c'est une éthique du design pour moi de faire ça, quoi. Voilà, c'est. Je sais pas si ça répond à ta question, mais moi, ça m'avait touché, ouais. Ouais.
Je voudrais revenir vite fait sur quand tu parlais tout à l'heure des boucles qu'on clique avec frénésie de lien en lien, on scrolle, on rentre chez nous, on scrolle Tumblr, on scrolle Facebook, on va de lien en lien tout le temps, on cherche un emploi, on va de lien en lien, on fait que ça. Et finalement, Internet devient non plus une interface du monde, mais devient quasiment notre monde. Vraiment, les écrans deviennent notre monde. Et j'ai l'impression, petit à petit, si on s'en rend pas compte, on perd un peu la capacité à se construire, à se définir nous-mêmes, en fait, et notre rapport à nous-mêmes et notre rapport au monde. Puisque le monde n'est plus le monde réel, mais est cette interface. Et alors, ma question va un peu sur les futures générations. Pour qui ce monde d'interface est naturel et instinctif à ce moment-là? Est-ce que tu vois une manière de se redéfinir et de redéfinir notre rapport à cette espèce de nouveau monde d'interface qui serait vraiment dans la technologie?
À l'intérieur de la technologie même? Ouais, ça c'est vraiment l'enjeu de design très fort, quoi. Ce qui est sûr, c'est que tu vois notamment, bon, c'est un truc classique, mais tu vois que les cadres de la Silicon Valley, ils mettent pas leur gosse devant un écran avant l'âge de 10 ans, quoi. Tu vois, c'est toutes les écoles d'élite de la Silicon Valley. Donc les mecs ont compris un truc que nous on n'a pas encore compris. Par contre, ils nous vendent leur merde et puis on la subit et nos gosses la subissent largement, quoi. Mais ils ont compris que si tu veux qu'il y a dans le développement neuronal de l'enfant, qu'un enfant joue avec des poupées, avec des objets, se crée des jeux de rôle, déploie lui-même un monde non interfacé, non interagi, est beaucoup plus riche d'un point de vue du développement cognitif, intellectuel et imaginaire que d'être sur une interface sur laquelle tu vas cliquer. C'est vraiment important ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, je le vis chaque jour et je pense que beaucoup, on le vit beaucoup. C'est qu'il y a toujours un moment, et je le vois, c'est des états de fatigue à ce moment-là, où je me mets à rentrer dans une sorte de boucle machinique, quoi. C'est-à-dire que je me mets à cliquer. Je me mets à scroller, à cliquer, à scroller, à cliquer. Je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. Je suis dans une sorte de mode complètement routinier, machinique, ininspiré et absolument pas créatif. Ou voilà, je suis en train de scroller sur un site de foot et en bas on me met les 20 plus belles femmes de footballeurs et je clique dessus et machin, tu vois. Et c'est ça. Et les mecs qui ont conçu la page, ils savent très bien qu'en bout de scroll, quand ils te mettent ça, ils obéissent à une pulsion de fatigue que tu vas avoir, qui est de voir des jolis visages de femmes et machin, et qu'ils connaissent parfaitement l'économie des gères qui gère ça, quoi, tu vois. Et pour les gamins, s'ils sont éduqués là-dedans sur des boucles très courtes, c'est extrêmement compliqué ensuite de leur apprendre effectivement le temps long et la construction longue. Donc je pense que déjà, avant l'âge de 10 ans, je pense qu'il faut quasiment pas que les gamins touchent la machine. Après, en termes de design, je pense qu'il faut complexifier effectivement les circulations, les navigations, etc. Il faut des navigations qui créent des sortes de stases, de pauses et qui rendraient difficile l'accès à certaines choses. C'est-à-dire qu'il faut sortir du continuum de facilité et de fluidité qu'offrent ces machines et sur lequel toutes ces interfaces sont construites. Les interfaces sont construites sur le principe de fluidité. Et ben moi, je pense qu'il faut un principe de ralentissement, de coagulation, de difficulté, de stop, etc., qui fasse qu'à un moment donné, tu es obligé de décrocher, tu vois, et que tu peux pas avoir une navigation fluide à un moment donné. Tu es obligé de sortir la navigation fluide. Mais vas-y, va poser ça, quoi, tu vois, comme quelque chose de fondamental. Difficile. Mais il devrait y avoir. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on parle beaucoup de. Je parle beaucoup de rapport de fermeture, mais on devrait parler du rapport au temps. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans la rythmique, dans le continuum dans lequel on nous inscrit et on s'inscrit tout seul. Des choses vraiment à revoir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a un idiorhythme. L'idiorhythme, c'est le rythme personnel que tu peux créer toi-même. Il y a un idiorhythme à créer qui est super difficile, je trouve, à gérer par rapport au cycle machinique qui est fondé sur le continuum, quoi. Tu vois, et ça, briser le continuum, générer l'interruption, faire bugger la machine, que la machine elle-même s'arrête, bug, et que les interfaces stop, ça serait super intéressant, quoi. Mais à voir. Ça, on le voit dans le jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo qui permettent ça, mais en navigation internet. C'est chaud. Ouais.
J'avais une question. Je me disais également, peut-être que tout simplement, la machine est peut-être plus ambivalente qu'on l'imagine. Dans le sens où, oui, bien sûr, c'est un facteur d'asservissement. Bien sûr, également, ça peut créer une ségrégation entre l'accès à la technologie ou pas, un niveau d'accès à la technologie. Là, je le vois bien. Bien entendu, on est happé par un système qui est là pour nous vendre des choses en nous promettant 3 pixels de plus et en nous jurant une révolution. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais je me dis également que c'est aussi un facteur de pouvoir immense d'avoir accès à une information auquel personne ne pouvait avoir accès. Aujourd'hui, des gens rentrent dans le Pentagone via Internet en hackant. Quel individu, il y a 20 ans, 30 ans, pouvait imaginer rentrer dans le Pentagone, même de manière virtuelle? Enfin, c'était inimaginable d'avoir accès à ces documents. Et on a également des moyens de rébellion, de puissance, de création de choses plus ou moins autonomes qui existent sur Internet, qui n'existaient pas avant. On pouvait nous faire avaler n'importe quoi. Aujourd'hui, bon, même si c'est dur, il faut savoir faire le tri. On a un moyen de pouvoir vérifier, au moins de chercher des sources. C'est il y a le pire, mais il y a aussi le meilleur. Et je pense que l'utilisation qu'on en fait, et même, j'irais même plus loin, on peut détourner l'utilisation. Internet, je ne pense pas qu'il prévoyait qu'on puisse avoir accès à une culture partagée entre tous de manière aussi facile. Après, voilà.
Ouais. Si, ça, je pense qu'il le prévoyait dès le départ, parce que ça a été fondé un peu là-dessus. Bien sûr, tu as parfaitement raison. Et c'est. Moi, j'essaie de développer le côté technocritique, parce que je trouve qu'on est en technophilie généralisée, et que je pense que c'est important qu'on fait une prise de parole publique de pas répéter ce qui est évidemment absolument exact et vendu largement aussi par les multinationales. C'est-à-dire que c'est un accroissement de pouvoir fantastique. Enfin, je veux dire, moi, ça m'aide énormément à écrire, ça m'aide énormément à lire, à créer, à inventer. Ça aide à communiquer, ça aide à trouver des amis, ça aide à trouver même la femme de sa vie. Ça te permet des choses extraordinaires qu'on pouvait absolument pas faire avant. Et tout ça explique que ça se soit généralisé aussi fortement. Bien sûr, les gens sont pas des débiles, quoi. Tu vois, à un moment donné, ils ont empoigné cette technologie parce que aussi elle était empuissantante, elle était magnifique dans sa capacité à ouvrir des choses qu'on n'avait jamais touchées. Mais le problème, c'est qu'à partir d'un certain stade, comment tu évites que la vague technologique se referme sur toi? Et finissent par te fermer un rapport au monde qu'elle t'a ouvert au départ, quoi, tu vois, et qui était extraordinaire, quoi, tu vois. Et aussi, comment tu gardes une distance critique par rapport à cette espèce de fascination que donne l'accroissement de pouvoir. C'est là-dessus, si tu veux, que je vais essayer de me positionner. Alors, parfois, les gens me croient technophobe, machin, bon, ce qui est évidemment complètement débile. Mais par contre, une position technocritique vigilante, en tout cas, par rapport à ce que la technologie aussi te retire, est importante, voilà. Mais ça n'enlève pas, évidemment, tout ce que ça amène, qui est absolument prodigieux, et dont moi-même, je bénéficie tous les jours, et dont je me réjouis de bénéficier. Tu vois, il y a des choses quand même, des fois, t'es fasciné, quoi. Tu vois, t'accèdes à des trucs. Moi, un truc comme Google Maps, je suis désolé, mais c'est vrai que ça me fascine complètement, quoi. Tu vois, c'est-à-dire en 3 coups de scroll, j'accède à n'importe quelle zone du monde, je peux voir des paysages, je peux voir des lieux, je peux voir. C'est juste une interface et une gestion de l'espace qui est. C'est un chef-d'œuvre. Google Maps, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, ces technologies-là, c'est des chefs-d'œuvre, il faut reconnaître. Et c'est une fascination qui ne se dément pas. Moi, je suis toujours fasciné. Tu vois, je suis là, j'ai ma carte de France, j'ai même mon truc du monde en 3 scrolls, je vais au fond de ma rue, quoi. Tu vois, je suis dans un partie de massif des Calanques que je viens de faire et j'ai pas trop compris, je me mets en Google Earth et je vois le passage. Enfin, c'est juste dément, quoi, tu vois, c'est juste magique, tu vois, et c'est super, tu vois. Maintenant, le but, c'est pas s'auto-féliciter de cette technophilie, mais c'est d'essayer de savoir comment on va pouvoir les. Voilà, vivre dans la sobriété machinique de façon intelligente et en développant ce que l'humain est, quoi. Voilà. Est-ce que. Ouais. Ah, je t'entends pas du coup, ouais. Bah, tu sais, les journalistes et les médias, malheureusement, ils sont dans le flux, quoi, tu vois. Et pour moi, ils sont devenus extrêmement machiniques. Et la preuve, c'est que maintenant, on considère que dans une 10-20 ans, 90% des news produites par les médias sera générée par des algorithmes, quoi, tu vois. C'est pour te dire le degré de machinisation et d'industrialisation de l'information qu'on a atteint, tu vois. Donc, à partir du moment où ils ont cédé à cette espèce d'évidence de l'information en temps réel, de l'immédiateté du champ informatif et du flux informatif, forcément ils se condamnent à quelque chose de non réfléchi, de machinique. Donc ils ont un rôle dans l'alimentation du continuum qui pour moi est grave. Maintenant t'as des exemples comme Mediapart, etc., qui montrent que heureusement on peut avoir du recul, on peut prendre le temps, on peut faire des articles de fond et qu'il y a toujours une résistance et une résilience par rapport à ça. Mais c'est vrai que ce que tu vois, moi je trouve dans les systèmes aujourd'hui informatisés continus, c'est la négation de la pensée humaine, quoi. C'est vraiment. Et donc, ils ont un rôle effectivement assez dramatique dans la. Pour moi, c'est des machines à mèmes, quoi. Voilà, c'est des machines à générer les mèmes et de la viralité, quoi. Donc ça, ça n'a aucun intérêt en termes de pensée, quoi. Bon, il y a des gens qui lèvent la main, mais qui sont. Faut crier très fort. Parce que t'as pas de machine, tu vois. T'es prisonnier de l'absence de micro. Tiens, j'ai pas entendu la fin. Vas-y, redis-moi. Si tu veux, tu prends le micro, comme ça, c'est aussi simple.
Bonjour. Vas-y, remplace-moi. Ok, alors je me demandais pourquoi est-ce que l'homme tend à retrouver un certain reflet de sa pensée, de sa condition à travers la technologie, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de la développer à travers juste le dialogue avec son prochain. Voilà.
J'adore les questions impossibles. Je ne sais pas si on a essayé de retrouver un reflet dans la technologie. Je pense que ce qu'on a essayé, c'est de trouver un relais de pouvoir dans un ensemble de manques et d'inaccès à la capacité qu'on avait, quoi. C'est-à-dire qu'on avait un ensemble de frustrations, on avait un ensemble de choses qu'on pouvait pas faire, et que la technologie nous a permis de faire. Et c'est ça qu'on a été chercher, quoi. C'est la volonté de pouvoir qui nous a poussé vers la technologie, qu'on a fait un vecteur central, et pas la volonté d'empathie, et pas la volonté de partage, et même si le partage effectivement peut être possible avec la technologie. Donc je pense que c'est un champ humain très fort, qui est la volonté de pouvoir, qui a fait de la technologie un paradigme roi, malheureusement, dans notre monde, quoi. Voilà. Et c'est en s'échappant de cette volonté de pouvoir que on arrivera aussi à avoir un rapport tempéré et intelligent à la techno, à mon avis, quoi. Quand on ne se débarrasse pas de cette soif de pouvoir et de pouvoir pour nous-mêmes et sur des toutes petites choses en plus, très souvent, on aura du mal à se débarrasser de la techno, quoi. Enfin, en tout cas, de s'en débarrasser de façon intelligente et de l'utiliser de façon judicieuse, quoi. Je pense qu'on est arrivé à 8h, non? C'est ça? Ouais. Est-ce qu'on prend une dernière question ou est-ce que vous voulez encore continuer? Ouais, vas-y.
Bonjour, désolé pour la question qui est retardée un peu. Vous avez parlé beaucoup de choses très intéressantes sur l'homme, la machine, et vous avez parlé d'un point qui m'a intéressé, c'est la façon d'utiliser nos outils, les outils qui vous sont proches, votre cerveau. J'ai découvert il y a peu de temps, c'est une tête bien faite, c'était un livre, j'ai fait putain la vache, pourquoi j'ai pas lu ça plus tôt, qui sert à faire des mappings, des choses très simples, et qui aide à structurer, qui aide à créer et à mettre en forme ses pensées, et qui n'est pas de ce format idéal qu'on m'a appris depuis des années en cours. Moi, ça fait, j'ai 25 ans, on m'a appris 25 ans comment prendre des notes en cours, et j'ai eu cette pensée, je fais merde, pour un dyslexique et dysorthographique que je suis, mais c'est magnifique, mais pourquoi on m'a pas montré ça plus tôt? Pourquoi des outils qui pourraient être faits pour nous aider nous-mêmes, notre propre outil qui est notre corps, ne sont pas si facilement d'accès, alors qu'on m'a facilement passé un PC, facilement passé un clavier et un souris, et j'ai pu apprendre à taper dessus plus tôt.
Ouais, mais tu sais, c'est horrible parce que moi aussi j'ai appris le mind mapping super tard. J'ai découvert ce truc là il y a quoi, 6-7 ans, quoi, tu vois. C'est à dire cette capacité de structurer une pensée ou un champ de réflexion par le dessin, par le schéma, par la schématisation spatiale, quoi. En fait, c'est ça que permet le mind mapping, et c'est magnifique, effectivement, c'est une autre façon de penser. Et ça s'adapte à certains types d'esprit extrêmement bien ou à certains types de champs extrêmement bien. Et pourquoi ces outils, on ne les véhicule pas, j'en sais rien. Ouais, et en tout cas, ça, c'est un truc qui n'est pas machinique, justement, qui n'est pas dans la structuration rubricale classique du dossier, du sous-dossier, du sous-sous-dossier, qui est très analytique, au fond. Et on a tendance, en plus, à adapter le système de pensée à ce que la machine est capable elle-même de traiter, quoi. Moi, ce qui me fascine sur le cerveau humain, je dis ça parce que ça, c'est un truc qui me touche beaucoup. Quand on me parle de la capacité à mimer un cerveau humain, à faire des réseaux neuronaux, à réussir à transférer le cerveau dans la machine, etc. Bon, c'est juste sur des chiffres et des choses toutes simples, quoi. Un cerveau humain, c'est 100 milliards de neurones, quoi, d'accord ? Et chaque neurone dispose de synapses, qui sont des interfaces, comme vous le savez, entre les neurones. Et en moyenne, on considère qu'il y a 10 000 synapses par neurone, d'accord ? Donc quand vous faites 100 milliards de neurones fois 10 000, c'est un truc absolument délirant déjà en termes de connectivité. Et quand vous vous dites que le silicium, c'est juste 0 et 1, c'est-à-dire qu'il y a deux synapses, 0 ou 1, et que nous, on est en base, pas en base 2, on est en base 10 000, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on nous raconte comme bullshit, quoi, tu vois. Je veux dire, on a une machine qui est un truc absolument prodigieux, si tu veux, en termes de connectivité. Et en plus, notre connectivité, elle n'est pas purement électrique, elle est physique, elle est organique, elle est chimique, elle est quantique. On a évalué qu'il y a des champs quantiques qui sont générés par le cerveau, notamment dans l'épilepsie. Moi, je suis épileptique, donc je peux vous parler de ça. On s'est rendu compte qu'il y avait de l'électromagnétisme, donc que la façon dont l'information circule dans le réseau neuronal, elle n'est pas uniquement 0, 1 sur un truc, tu vois. Et les gens sont là à faire des réseaux neuronaux. Google fait un réseau neuronal que je crois à 16 000 neurones et disent ah, c'est génial, on fait du deep learning, les mecs, on apprend aux machines à apprendre et tout. Bon, après, on ne dit pas que la machine n'apprend que ce qu'on lui apprend à apprendre, tu vois, mais voilà. Donc il y a un réseau neuronal qui traite un premier réseau d'information. Alors, il t'explique comment ils reconnaissent un chat, comment la machine reconnaît un chat, c'est génial. Alors, tu vois, ils se rendent compte que le chat, les deux traits saillants, c'est les yeux du chat, et puis c'est que les oreilles sont sur une ligne à 45 degrés, quoi, tu vois, la forme des oreilles. Donc le truc reconnaît des premières lignes, regarde les pixels au-dessus de la ligne, en dessous de la ligne. Donc t'as un premier réseau de neurones qui repère une ligne, tu vois. Et puis après, une fois qu'ils ont repéré les lignes, ils se rendent compte que les lignes, il y a un deuxième réseau de neurones qui se rend compte que les lignes sont à 45 degrés, tu vois. Et après, donc ils repèrent des triangles d'oreilles de chat, tu vois. Et ensuite, ils regardent l'espace membrane. Et puis au bout de 20 niveaux comme ça de réseau neuronal, ils arrivent à déterminer que c'est un chat. Ils sont super contents et c'est bon. Mais moi j'adore, enfin tu vois, j'adore qu'on puisse être fasciné par ça, enfin tu vois, pourquoi ok, c'est super, une IA reconnaît un chat, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste infiniment primitif, quoi, tu vois, et ça restera infiniment primitif parce que ontologiquement, le silicium, l'électricité sont à 1 milliard de kilomètres de la puissance d'un cerveau et de la dimension organique d'un cerveau, et je te parle même pas du rapport entre le cerveau et le corps, quoi, tu vois, qui à mon avis est la source de toute notre puissance, quoi, tu vois. La puissance, elle n'est pas logée dans le cerveau, elle est logée dans la circulation et dans l'échange et dans cette espèce d'interaction hallucinante entre le corps, qui lui-même est doté de cerveau, parce qu'on sait maintenant que le ventre a un cerveau, on sait que plein de zones ont des réseaux neuronaux, maintenant on comprend ça. Donc voilà, on est une multiplicité de cerveaux qui interagit en son temps de totalité d'un corps, et avec des interactions thermiques, de sang, de lymphe, de trucs de fou, de nerfs, tu vois, bon. Et on nous baratine et on essaye de nous vendre, tu vois, des capacités informatiques qui seraient équivalentes à ça. Mais non, soyons fiers et soyons conscients qu'on dispose d'une c'est Bergson qui disait ça, d'une boule d'incertitude. C'est cette boule de neurones, espèce d'écheveau de fils qui est un chef-d'œuvre de la nature. Il dit, c'est un truc. Moi, j'adore. C'est dans l'évolution créatrice. C'est un moment très beau. Il dit, mais c'est la première fois que la matière a trouvé quelque chose pour échapper à elle-même. Que la matière a trouvé quelque chose pour échapper à la matière. Voilà. Et la matière a créé cette boule de cerveau qui échappe au déterminisme de la matière. Et ça, c'est la vraie énigme du monde, quoi. Tu vois, pour moi, c'est la vraie énigme du vivant, quoi. Et jamais le silicium n'aura cette capacité, malgré tout ce qu'on nous baratine, tu vois, à échapper à sa propre condition matérielle, parce que c'est un médium super pauvre. Voilà. Et qu'on arrête avec la mémoire numérique, avec la pensée numérique, avec... On n'y arrivera jamais par cette façon-là. Après, il y aura plein d'autres façons, peut-être en manipulation génétique, pour faire des cerveaux, etc. Mais certainement pas avec le silicium. En tout cas, moi, je... Voilà. On l'a compris ? Bon. C'est fini. Ok, mon éditeur me dit c'est fini.